bistrot des ethnologues. Divergence FM vous propose d'écouter l'enregistrement du bistrot des ethnologues qui s'est tenu ce mardi 7 octobre 2008 au Baloir. L'atelier de recherche comparative en ethnologie invitait Christian Jacquelin, ethnologue à la DRAC Languedoc-Roussillon et membre du LAIC UMR 81-77 sur le thème « Le monde incertain des cabaniers ». De la cabane à l'enfance, à la cabane outil des pêcheurs, la cabane constitue un objet anthropologique de premier plan parce qu'elle renvoie en permanence à l'imaginaire et à des univers techniques, sociaux, culturels et symboliques. En Languedoc-Roussillon, les cabanes sont indissociables du chapelet d'étangs qui s'étire tout au long du littoral méditerranéen. À la fois précaire et essentielle, banale et singulière, ces constructions ordinaires qui condensent savoir-faire et mode de vie ont valeur de témoignage ethnologique. D'autant qu'aujourd'hui, la pression immobilière et l'application de la loi littorale rendent leur survie aléatoire. Trois terrains emblématiques illustrés de photographies seront abordés, les cabanes de Bauduc à l'extrême pointe de la Camargue, les cabanes des Étangs, languedociens, et enfin les Barracas des Seniles, cabanes de Roseau du Roussillon. Un film de documentaire de 24 minutes réalisé en 2004 par Luc Bazin et Christian Jacquelin présentera le quotidien de Joseph, ancien charpentier de marine et philosophe des cabanes de l'étang de l'Or. Pour des raisons de droit, la bande-son de ce documentaire ne sera pas diffusée dans cette version radio du Bistrot des ethnologues.
Alors Christian Jacquelin, que vous connaissez pour la plupart en tout cas, a accepté donc d'intervenir ce soir. Vous savez qu'il fait partie de l'ARCE depuis le début, c'est un des fondateurs. Il a accepté au pied levé donc de venir ici nous parler, évoquer ce monde incertain des cabaniers. Donc vous voyez une image sur l'écran. Alors cette communication, j'ai envie de dire, vient à point nommé puisque, bien sûr, son livre vient juste de paraître, avec donc en collaboration avec Michel Escossi, qui se trouvait parmi nous. Ce bouquin est paru aux éditions Equinox. Alors ce livre qui s'appelle Cabane et cabanier, Languedoc-Roussillon-Camargue, traite donc de plusieurs étangs entre Bauduc et le Roussillon. Alors, vous y trouverez dedans une préface du journaliste de Libération Jacques Durand sur laquelle Christian Malevin a insisté, et il est vrai qu'elle est assez remarquable. Je vous la signale en passant. Alors je vous rappelle aussi que Christian est conseiller à l'ethnologie, bien sûr, à la DRAC, vous le savez pour la plupart d'entre vous tous, et qu'à ce titre, il a largement contribué au classement d'un certain nombre de ces cabanes que vous voyez sur l'écran. Alors il est aussi chercheur au LAIC, bien sûr, et depuis de nombreuses années, donc avec son vieux complice Michel Escossi, il a parcouru de nombreux étangs et il a étudié le mode de vie des cabaniers. Alors je regardais ses publications et c'est en 93 que j'ai trouvé le premier travail qui a été publié sous le titre Ethnophotographie. Donc déjà un premier travail qui a concerné ce domaine-là, sur lequel il faisait en quelque sorte ses premières dents. Alors plus tardivement, en 2004, avec un certain nombre d'autres partenaires, il a réalisé une grande exposition qui a d'ailleurs été diffusée sur plusieurs sites, notamment à Montmajour, à Narbonne, sur la scène nationale, sur la scène du Théâtre national, et au parc régional du Narbonnais aussi. Alors depuis, donc tous les deux ont croisé sur leur chemin d'autres ethnologues. Par exemple, Laurence Nicolas, qui est parmi nous ce soir, avec sa recherche sur Bauduc. Il a aussi croisé Luc Bazin, bien sûr, et ses films ethnographiques sur les étangs, qui est aussi parmi nous, d'ailleurs. Alors, cette séance donc, va se dérouler avec ces personnes que j'ai citées de manière un peu particulière. Au plan du contenu, après la présentation de Christian, agrémenté d'un diaporama, nous verrons le film de Luc Bazin, donc Joseph le Cabanier. Ensuite, au plan de sa diffusion, il est aussi un peu particulier ce spectacle ce soir, puisque désormais les internautes qui sont connectés sur le site internet de l'ARCE pourront écouter en direct la communication qui va être réalisée. Et ils pourront aussi d'ailleurs poser des questions, comme vous-même, mais par mail, sur le site internet de l'ARCE, nous le recevrons normalement en direct, ici, là. C'est notre camarade qui est au fond, qui va les recevoir. Alors justement, cette prouesse technique dont je vous parle a été rendue possible grâce au travail de Divergence FM, bien sûr, alors d'Apsis, le webmestre qui a travaillé sur cette application, et bien sûr du Baloir. Alors ainsi aussi que Patricia, qui est au fond, qui se planque, et Jean-Bernard de Larcy, qui ont aussi concouru en partie à ce travail de mise en réseau. Voilà, alors je voulais les remercier particulièrement ce soir, et aussi nos financeurs, bien sûr, que j'oublie pas, que j'ai toujours l'habitude de remercier, la DRAC, bien sûr, le Conseil Général et la Ville de Montpellier. Voilà. Christian, je te laisse la parole pour parler du monde incertain des cabaniers, et ensuite nous regarderons le film de Luc, après les questions.
Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci Richard de ces mots qui me font plaisir. Et puis, je suis désolé pour les gens qui sont venus pour écouter une conférence sur Sangatte. Ce ne sera pas ça ce soir. Voilà. C'est un peu au pied levé, c'est un peu dans l'urgence vraiment dans l'urgence, puisque le bouquin qu'il a évoqué est sorti en fait vendredi dernier. Donc voilà quoi. Et puis cet ouvrage, donc il l'a rappelé, a été sorti avec la complicité de Michel Descossi, photographe qui parcourt les lagunes depuis plus de 50 ans et qui fréquente les cabanes, les cabaniers et les cabanières, bien entendu. Une précision également, il m'a un petit peu nommé un ethnologue des cabanes. Moi, je me situerais plutôt en cabanier de l'ethnologie. C'est pas une pirouette de langage, c'est dans la mesure où mes travaux sont souvent un braconnage sur le terrain des autres, et un bricolage aussi, autant sur le plan méthodologique que sur le plan théorique, c'est souvent à partir d'une expérience vécue et puis d'enquête de terrain, et puis c'est aussi un recyclage des travaux des autres. Mais après tout, j'assume. Le bricolage, le recyclage et puis le braconnage, c'est les trois piliers de la culture cabanière. Tout ça, bien entendu, en guise de précautions oratoires pour vous demander votre indulgence. Alors, mon intervention se déroulera en deux temps. Tout d'abord, une approche générale de la cabane à travers l'étymologie du terme même, ainsi que dans sa relation qu'elle noue avec l'imaginaire. Et dans un deuxième temps, j'évoquerai trois terrains que je considère emblématiques: les cabanons de Bauduc, à l'extrême pointe de la Camargue, les cabanes des étangs languedociens, et enfin les barracas de Sénil, c'est-à-dire les cabanes de roseaux, de la côte sableuse et du littoral du Roussillon. Cette deuxième partie sera donc complétée par un film qui s'appelle Joseph le Cabanier, film de 24 minutes, qui a été réalisé en 2003-2004 avec Luc Bazin, ethno-cinéaste, qui est parmi nous ce soir également. Alors, l'étymologie. L'étymologie de la cabane se révèle, de mon point de vue, riche de sens et de questions. Le terme cabane est apparu en 1387, a été emprunté au provençal cabana, qui désigne une chaumière, une petite maison. Alors si aujourd'hui il désigne une construction rudimentaire, comme la cabane au fond du jardin bien connue, ou une cabane de bûcheron, une cabane de chantier, une cabane de pêcheur, bref, des cabanes fonctions en quelque sorte, où la variabilité des formes traduit la diversité des usages, le mot a eu des emplois spécifiques tout au long de l'histoire. Abri pour les animaux, apparu dès le XVe siècle, abri de haute montagne au XVIIIe, concurrencé par refuge. L'igloo des Esquimaux était parfois désigné sous le nom de cabane de neige. Au Québec, le mot cabane apparaît au XIXe dans le syntagme cabane à sucre, où l'on traite la sève d'érable. Comme la cagna des poilus, la cabane est passée dans l'argot pour désigner la prison militaire, 1905, puis la prison et la maison de tolérance, à l'instar du cabanon où l'on enfermait les fous dangereux. À ne pas confondre, bien sûr, avec le cabanon provençal, chanté par Alibert, c'est un petit cabanon, pas plus grand, etc., etc., et bien étudié par Claudie Gontier, qui se dit d'une petite maison de campagne ou d'un chalet de plage. Autre question cruciale, le caban, vêtement du marin, adapté aux intempéries, est-il le masculin de la cabane ? On pourrait le supposer, car à la manière de la cabane portative du berger, évoquée par Zola dans La Terre, en 1887, je cite Zola, « étroite niche qui lui sert de lit, d'armoire et de garde-manger, le marin porte-t-il son caban en cas de pluie ou de frimas ?» On retiendra deux dérivés intéressants pour notre propos. Cabine, qui désigne un abri provisoire ou un local avec divers emplois techniques, et cabinet, qui en dehors du lieu d'aisance désigne une petite chambre retirée, ainsi le cabinet noir, pièce obscure où l'on enfermait les enfants pour les punir, ou l'endroit où l'on se retire pour réfléchir ou travailler. C'est le sens de cabinet de curiosité et de cabinet de lecture qui est apparu au XVIe siècle. Quant au verbe cabaner, outre le sens habituel de loger dans une cabane, il est employé en marine de nos jours au sens de chavirer. En sériciculture, on l'emploie dans le sens technique de disposer un abri de branchage pour que le ver à soie tisse son cocon. Le terme cabanier, que nous emploierons dans son usage languedocien pour désigner les habitants ou utilisateurs de cabanes, est apparu au XIXe siècle pour désigner dans l'ouest de la France un exploitant agricole. Notons enfin que le féminin cabanière s'applique spécialement aux ouvrières des fromages de Roquefort. Après ce détour étymologique révélateur de la polysémie de l'objet, nous allons tenter de montrer pourquoi la cabane est bonne à penser, comme le dit le sociologue Bernard Picon dans Cabane, cabanons et campements, ouvrage collectif paru en 2001. Bonne à penser parce qu'elle renvoie en premier lieu à l'imaginaire. Imaginaire forgé dans l'enfance, où la construction de cabane est une phase essentielle de la construction de soi, un rite de passage. La cabane de l'enfance a en elle ses corollaires, l'appropriation, ou le syndrome du coucou, et la destruction. On sait la jouissance qu'éprouve un enfant de s'emparer de la cabane d'un autre ou de la détruire. En extrapolant un peu, on peut se demander si les préfets qui ordonnent la destruction des cabanes, avec force tractopelle, ne seraient pas au fond des grands-enfants. Plus sérieusement et plus tard, compte tenu de l'importance de la cabane dans l'enfance, elle devient dans le monde adulte une régression socialement admise, mais juridiquement condamnée. La construction de la cabane est une utopie opposée à la trivialité quotidienne. Alors cet imaginaire est présent dans toute la littérature. On pense aux contes initiatiques enfantins, qui ont été étudiés particulièrement par Josiane Bru, à Hansel et Gretel, et la cabane en pain d'épices, à Huckleberry Finn, à Tom Sawyer, ou, me rappelait Laurence Nicolas, aux trois petits cochons, dont les cabanes sont un efficace raccourci et est une intéressante métaphore de l'évolution des matériaux de construction, la paille, le bois, la pierre. On peut penser également aux romans d'aventure qualifiés de robinsonnades, où l'imaginaire de la cabane joue un rôle déterminant. J'avais travaillé un peu là-dessus. Simple grotte dans le roman fondateur de Defoe, Robinson Crusoe, de 1719. Elle devient une hutte autochtone dans les Robinson français de J. Morland, j'ignore son prénom, 1856. Et cette cahute, croisement de cabane et de hutte, analogue aux constructions des naturels canaques, devient leur salut. Cabane dans les arbres, enfin, dans le roman pédagogique Le Robinson suisse de Jean-Rodolphe Wyss. Alors on peut penser également à toute la littérature des pionniers américains où la log cabin, la cabane de rondin du trappeur, est un élément essentiel du mythe. Sur cette photo de Shelter, manuel culte des années 70 de la construction alternative, on voit que l'autoconstruction prônée rejoint le mythe. On retrouvera cette image fondatrice de la cabane dans le cinéma, des vieux westerns au récent Into the Wild de Sean Penn. Mais la cabane est bonne à penser dans un autre sens. C'est aussi le refuge d'écrivains et de philosophes qui viennent s'y retirer pour écrire. On rejoint le cabinet de lecture du XVIe. On citera en premier lieu Henri David Thoreau, écrivain fondateur de la pensée cabanière avec son Walden, une philosophie dans les bois, et le philosophe Gilles Tiberghien vivra un siècle plus tard une expérience identique qui aboutira à son récent essai Note sur la nature, la cabane et quelques autres choses, qui est une contribution théorique assez intéressante sur la cabane comme acte artistique. On évoquera Melville, l'auteur de Moby Dick et de Taipi, qui se construisit une cabane dans le Maine. On citera encore le philosophe allemand Wittgenstein, qui édifia une cabane sur un promontoire au-dessus d'un fjord, totalement isolé et accessible seulement en barque aux confins de la Norvège. Extrait de ses carnets de Cambridge Colgen de 1936. Je ne peux imaginer que j'aurais pu travailler ailleurs comme je le fais ici. C'est le calme et peut-être le merveilleux paysage, je veux dire sa gravité paisible. Dans tous ces exemples, on rejoint la fonction essentielle de ressourcement de la cabane que l'on pourrait résumer par cette phrase de Goethe tirée de Faust. Ici, je me sens homme, ici, j'ose l'être. Ainsi, la cabane, qui pouvait sembler à première vue comme un sujet marginal, apparaît peu à peu comme un objet d'étude tout à fait légitime, voire universel et paradigmatique, qui renvoie à de multiples champs d'analyse. La cabane touche au domaine juridique, conféré sans doute par son statut de meuble et non d'immeuble, d'habitat précaire et temporaire, et la question du droit, du légal et du juridique est posée en permanence, dans ce qui n'est parfois qu'une tolérance à son endroit, et on le verra avec la tradition transgressive des cabanes languedociennes. Mais elle peut s'appliquer également au domaine religieux. On évoquera la fête du Sukkot, ou fête des cabanes, 5 jours après Yom Kippour, où les Juifs se construisent un abri symbolique avec 4 bouts de bois et quelques palmes dans leur jardin ou sur leur balcon. Symbole de pauvreté, la cabane reconstruite commémore le séjour du peuple hébreu dans le désert et sa longue marche vers la terre promise. La cabane est aussi à l'articulation des registres de l'imaginaire, du social et du technique. C'est la cabane vécue comme projet de vie, espace alternatif, correspondant à un désir d'évasion et de rupture, qui peut apparaître également comme une solution écologique selon 3 principes, l'autoconstruction, l'adaptation au milieu et la récupération de matériaux ou l'utilisation de ressources naturelles. Cette micro-architecture, critique en acte de l'habitat standardisé, peut être aussi un modèle expérimental pour certains architectes. Le Corbusier disait de son cabanon de 16 mètres carrés, construit en 1952, « Je me sens si bien dans mon cabanon que sans doute je terminerai ma vie ici. » Il ne croyait pas si bien dire, puisqu'un bain de mer fatal en 1965 scella son alliance définitive avec la Méditerranée. Autre petit exemple de cabane, cabane perchée en Cévennes d'architecte qui rejoint un peu le rêve du baron perché d'Italo Calvino. Puis la cabane peut être également source d'inspiration pour des artistes. Voilà un petit aquarelle du 19e, ou bien le photographe Lagarde qui a photographié l'atelier cabane de Jean Azémar, un des fondateurs de Support Surface. Là, à la Fondation Cartier, Agnès Varda, la cabane de l'échec à partir de pellicules de films refusés ou ratés. Ou bien cette cabane que je vous montre, Harald Fernagu, Résistance, une cabane de la pointe courte simplement détournée avec la position d'une Kalachnikov factice devant la porte. Ça s'appelle Résistance. En posant le rapport nature-culture, du dedans, du dehors, de la marge et de la normalité, du soi et du monde, la cabane en dit long sur les sociétés. On en viendrait presque à rêver d'une discipline nouvelle, la cabanologie, aux confins de l'ethnologie et de la pensée sauvage, qui reposerait sur le vécu, où l'objet empirique se confondrait avec l'objet de recherche, bref, une théorie en acte, une praxis en quelque sorte.
Sur Divergence FM 93.9, vous êtes à l'écoute du Bistrot des ethnologues. Christian Jacquelin, ethnologue à la DRAC Languedoc-Roussillon et membre du Laïc, sur le thème « Le monde incertain des cabaniers », un bistrot enregistré ce mardi 7 octobre 2008 au Baloir.
Alors, nous allons aborder maintenant les exemples régionaux de notre intervention, illustré par les photos de Michel Descossi. Alors, donc, nous aborderons 3 cas à partir de 3 terrains déclinés d'est en ouest, les cabanons de Bouduc, les cabanes des étangs languedociens et les baraques des pêcheurs du Roussillon. Alors, vous avez remarqué, j'ai employé 3 termes différents. On dit cabanon à l'est du Rhône, cabane pour les cabanes languedociennes et baracas, baraque pour le Roussillon. Les cabanons de Bauduc. Alors, pour traiter ce cas emblématique, je m'appuierai naturellement sur les travaux de Laurence Nicolas, chercheur rattaché au DESMID, qui vient de publier un ouvrage de référence que je vous présente, qui vient de sortir, Bauduc, l'utopie des gratte-plages, aux éditions Images en manœuvre. Donc, je vais parler sous son contrôle. Bauduc est situé sur la pointe du delta du Rhône, aux confins de la Camargue. On y accède difficilement par une piste chaotique remplie de bosses et de trous. Le site offre un paysage grandiose de digues, d'étangs, de dunes qu'on appelle les Montilles. Il abrite, ou plutôt il abritait, un village de, j'ai des chiffres, ils sont peut-être plus valables, 350 installations, 450 hétéroclites, des cabanes, des caravanes, vous voyez, une espèce de caravane pétrifiée, des wagons, des vieux bus, des abris de chantier. La présence des cabanes de pêcheurs venant des Sainte-Marie-de-la-Mer et de Martigues est attestée au XVIIIe. De 1850 à 1850, les ouvriers saliniers des Salins-Giraud fréquentent ce pays de cocagne, giboyeux et poissonneux, pour s'y livrer à la chasse et à la pêche, dont le ramassage toujours actuel des télines, qui est à l'origine du sobriquet de gratte-plage, dont on affuble les habitants de Bauduc. Peu à peu, avec la généralisation des congés payés, l'ensemble de ces cabanes se transforme en habitat de loisirs. Toutes les couches de la population camarguaise y sont représentées, pêcheurs, ouvriers, artisans, commerçants, ouvriers agricoles, mais seuls les pêcheurs y vivent à l'année. On y trouve aujourd'hui des gens d'Arles, également des retraités à faible revenu. La caractéristique de cet habitat est d'être construit à partir de matériaux de récupération prélevés dans les usines et chantiers, et de s'être édifié sans permis ou autorisation. Les constructions sans droit ni titre, comme on dit en langage juridique, se multiplient, et en 95, sur les trois quartiers de Bauduc, Bauduc Nord, Bauduc Plage et le village, on comptait, enfin moi j'avais un chiffre, 273 occupations fixes et 184 véhicules à l'année, caravanes, bus, fourgons. La diversité des formes des matériaux semble sans limite. Simples abris en canisse, prolongement de caravanes, cabanes en planches doublées de toiles goudronnées, toitures en tôle ondulée, etc. Tout semble bon à recycler. Une sorte de bidonville à effet esthétisant, pour reprendre l'expression de Laurence Nicolas. Et de fait, on a là un concentré d'architecture spontanée et populaire, dont l'esthétique particulière, résultat d'une récupération aléatoire et d'un bricolage permanent, relève de l'art brut. La société ainsi formée est une société de la débrouille, égalitaire et indifférenciée, vivant dans la marge, sur ce terrain mi-solide, mi-liquide, en bordure du monde qu'elle s'est appropriée, en s'affrontant en permanence à des contraintes naturelles, le vent, le sable, qui s'immisce partout, les coups de mer, les moustiques. Dans cet univers à forte sociabilité, la littérature orale encore très présente se partage à travers des récits de construction de cabanons, de parties de pêche mémorables ou d'actes de résistance héroïques. Les cabaniers de Bauduc ont pris conscience de leur exception culturelle, puisqu'au nom des us et coutumes, ils tentent de trouver des arguments contre la loi littorale qui les astreint à détruire eux-mêmes leur petit paradis. Ces destructions vont d'ailleurs provoquer de grandes tensions entre les trois associations de sauvegarde et marquer peut-être la fin de l'utopie. En jouant sur les mots et pour rester dans le registre lexical de notre introduction étymologique, on pourrait dire « être contraint de casser la baraque pour éviter la cabane, il y a de quoi finir au cabanon ». Bon, plus de 350 cabanes ou caravanes ont ainsi été détruites sur l'ordre du préfet depuis le 31 novembre 2004, parce qu'installées illégalement sur le domaine public maritime. 80% sont menacées de disparition. Pour reprendre le titre de cette intervention, le devenir des cabanons de Bauduc reste incertain comme les confins de leur monde. J'aborde maintenant les cabanes des étangs du Languedoc. Étangs de l'Or, étangs de Pierre Blanche, étangs de Pérols, du Prévost, de Thau dans l'Hérault, étangs de Pissevache, de Bages, de Sigean ou de Lérolles dans l'Aude, le lido languedocien est comme ourlé par une succession d'étangs entre mer et garrigue, mêlant étroitement le ciel, l'eau, la terre. Les étangs constituent un milieu très riche, tant sur le plan de la faune que de la flore. Zone refuge pour les oiseaux, canards, foulques, mouettes, goélands, cormorans, sternes et chassiers. Il abrite de nombreux crustacés et mollusques et sert également de nourricier pour certaines espèces de poissons comme les anguilles et les dorades qui pénètrent par les gros. Sur les zones humides qui le bordent, croît une végétation particulière, tamaris et roselières dans les marais, salicornes et saladelles sur les terrains inondables appelés sansouir. La présence de l'homme est signalée près des étangs languedociens de longue date, comme on atteste ce beau plan aquarellé du XVIIe, conservé aux archives de Lunel. Il y a développé une culture particulière que l'on peut qualifier de culture lagunaire. Habitat, savoir, technique, sociabilité, nombreux sont les marques identitaires spécifiques des communautés des étangs. Ici, comme à Bauduc, l'architecture cabanière échappe au modèle, à la typologie. Néolacustre et adapté au milieu, avec ses pilotis enfoncés dans la canalette, vernaculaire et précaire avec les éléments naturels, parfois les sagnes qui l'habillent, garbage housing, littéralement architecture de rebut et autoconstruite dans nos bricolages poétiques de matériaux récupérés ou détournés, comme le bois passé au coltard, le carton goudronné SNCF, le bidon déroulé, et beaucoup pré-pavillonnaires avec de plus en plus ces tendances insidieuses du béton à se développer et à imposer son hégémonie. Prolongement indispensable des cabanes, les bateaux sont adaptés aux eaux plus profondes des étangs. Les négafoles, littéralement les noix fous, à fond plat, mus à la partègue, les rebalaires, reconnaissables à leur pointe moins relevée que l'on déplace silencieusement dans les canalettes à l'aide du rouquette, les gabions, pour la chasse au gibier d'eau, les barquets, à rames ou à moteur, chacune de ces embarcations a une fonction précise dans les pratiques de pêche ou de chasse. Lever le globe dans le canal, aller relever les verveux de Capetchade ou les trabacs pour capturer l'anguille dans l'étang, poster les mannequins et les canards vivants, puis piouter, c'est-à-dire utiliser des appôts, une partie de la nuit dans la fûte ou dans le gabion pour attirer la foulque. Les techniques halieutiques et synergétiques supposent un ensemble de savoirs et une intimité profonde avec les milieux. Connaissance de la météo, des vents, des déplacements des poissons ou des habitudes du gibier. Les chasseurs et les pêcheurs rythment leur vie sur les rythmes biologiques de l'étang. Ici règne l'entre-deux. Terre et eau se confondent dans la sansouire. Les poissons d'eau douce et les poissons de mer cohabitent dans la canalette, plus ou moins saumâtre. La foulque, gibier d'eau prisé, se pèle comme une anguille, a parfois le goût à poisson, et, entre guillemets, et peut se consommer, dit-on, le vendredi saint. Cette ambivalence de la nature a dû se transmettre au domaine du droit, comme en témoigne le statut un peu flou des cabanes, un habitat précaire qui dure, mais les cabaniers, réboussiers par principe, s'accommode assez bien de ce jeu avec la loi qui est là pour être transgressée ou détournée. Mais cela, dis-je en montrant les cabaniers dépenaillés qui s'étaient réunis autour de l'absinthe sous une tonnelle. Il s'arrêta déguisé la faux, regarda dans leur direction, puis il dit « Cela, c'est le luxe ». C'est un extrait de « L'étang de l'or » de Gaston Bessette, et cet esprit cabanier que Gaston Bessette a si bien décrit se manifeste également dans un rapport au temps particulier, la sieste et la pétanque considérées comme des beaux-arts, ou dans l'inversion et la dérision du monde. Les surnoms et sobriquets, parfois apposés sur les cabanes, en témoignent. La mairie annexe sur un cagadou à Lansargues, l'espung aux Salaisons. Alors l'espung, c'était le surnom du cabanier, puisqu'il avait tendance à... C'est l'éponge. Il avait tendance un peu à lever le coude. La préfecture à Marcillargues. La sociabilité masculine, autrefois marquée par la règle « pas de femme à la cabane », encore en vigueur dans certaines garçonnières synergétiques que sont les cabanes de chasseurs au gibier d'eau, tend à s'estomper dans les cabanes actuelles, vouées aux loisirs et aux week-ends. On serait tenté au final de faire l'éloge de la précarité qui menace et stimule à la fois en permettant d'échapper au code. En ce sens, les cabanes des étangs languedociens apparaissent comme les derniers d'une résistance à la norme. Il est d'usage pour les administrations évoquant les cabanes des bords d'étangs ou du littoral d'utiliser le terme cabanisation. Évidemment, ce glissement terminologique n'est pas neutre. et on retient exclusivement la dimension négative du phénomène, celle d'urbanisation sauvage, créatrice de nuisances. En fait, ce n'est pas la cabanisation qu'il faudrait redouter et combattre, mais bien la décabanisation, c'est-à-dire la transformation des cabanes en villas par remplacement des matériaux, quairons et béton omniprésents en lieu et place des matériaux recyclés. Changement de fonction, occupation permanente, et appropriation privative de l'espace par murs et clôtures. C'est en quelque sorte l'esprit des cabanes qui disparaît pour céder la place à des lotissements anonymes et médiocres sous la pression foncière et immobilière et sous la pression de la spéculation dont les cabanes font l'objet dans certaines communes. Dernier point de mon intervention, les baraques des pêcheurs du Roussillon. Alors sur ce point de mon exposé, je m'appuie sur les travaux de Robert Bataille, qui était un fils de pêcheur à qui on avait confié, la DRAC avait confié une étude il y a quelques années pour travailler, pour faire une espèce d'inventaire un peu de ces baraques du Roussillon. Dans les Pyrénées-Orientales, dans la plaine côtière du Roussillon, les baracas, terme catalan pour désigner les cabanes, ont longtemps constitué à la fois un mode d'habitat et un outil de travail pour les pêcheurs qui exerçaient leur métier de manière traditionnelle entre mer et lagune. Isolés ou regroupés en hameaux, ces baracas dont il existe encore quelques exemples sont les derniers témoins d'un mode de construction qui était répandu sur tout le littoral sablonneux de la côte méditerranéenne. Étonnamment moderne par son principe isothermique, son adaptation au milieu écologique et son intégration esthétique à l'environnement, la baraka répondait parfaitement à sa fonction originelle d'habitat-outil de travail, tant les pêcheurs la considéraient comme le prolongement naturel à terre de leur bateau. Son aspect extérieur évoque d'ailleurs celui d'une coque de bateau retournée. Témoigne de cette identification à l'embarcation, le vocabulaire emprunté à la charpente maritime qui décrit les éléments la composant, comme par exemple la carena, poutre de faîtage reposant sur deux mâts, ou als puntals, les poteaux fichés dans le sol. En catalan, puntal signifie le creux de la coque. La baraca est toujours orientée comme un bateau au mouillage, dans la direction des deux vents dominants, tramontane et vent marin, diamétralement opposés, ouest-nord-ouest, est-sud-est. Les activités halieutiques autour de l'étang de Sals sont attestées depuis le néolithique. L'utilisation du roseau, notamment dans les toitures de l'habitat et du pourtour méditerranéen, remonterait au moins au 5e siècle avant Jésus-Christ. Précisons toutefois que les cabanes en roseau et en jonc n'étaient pas limitées aux Pyrénées-Orientales. Dès le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, leur présence est largement signalée, surtout le littoral languedocien et catalan. Là, une gravure intéressante extraite du Télé-Renaudier, 1839, qui représente les remparts d'Aigues Mortes et devant deux magnifiques cabanes en roseau. J'aurais très bien pu également vous mettre une photo de Courbet à Palavas, invité par Bruyas en 1854, qui a peint la mer avec les cabanes en roseau. En Roussillon, ces cabanes, ces baracas constituaient un type d'habitat généralement saisonnier. Côté mer, elles étaient utilisées pendant l'été et côté étang pendant l'hiver. Les pêcheurs y passaient la semaine et ne rentrant au village que le dimanche. Aujourd'hui, ils n'y passent plus que la journée ou les fins de semaine. Quelques-uns y rangent encore le matériel, les trabacs, les crocs et les voiles. Autrefois liée à des pratiques traditionnelles, la baraka est devenue désormais essentiellement un lieu de détente et de convivialité. On y vient surtout le dimanche, en famille ou entre amis, boire un verre ou manger la boulinade, le plat traditionnel à base d'anguilles bouillies. À l'origine, les baracas étaient autoconstruites avec des matériaux tirés du milieu naturel. Les séniles, c'est-à-dire les roseaux communs des marais, les sagnes, comme on dit ici, les cagnas ou cannes de Provence, et également des matériaux de récupération. On utilisait en général pour la charpente des vieux mâts de barque, des barques catalanes, ou dans un passé plus récent, des poteaux électriques et téléphoniques ou des traverses de chemin de fer. Deux types de baracas dominent, la baraque ovale à deux absides et la baraque rectangulaire. L'emprise au sol de la baraka est délimitée par une rangée de pieux appelée la piquetade. Le sommet de cette piquetade est relié par une ceinture sablière de perches horizontales. Une fois posée la carena et sa charpente, on fixe sur tout l'ensemble un clayonnage horizontal de Cagnes. Les séniles, donc les roseaux, sont rassemblés en bottes d'une trentaine de centimètres d'épaisseur. Cette couverture est cousue au clayonnage avec du fil de fer. Côté extérieur, des faisceaux constitués de 3 ou 4 tiges de Cagnes cerclent horizontalement la couverture de séniles. Posée en 3 couches successives, cette couverture est refaite tous les 3 ou 4 ans. Elle offre d'excellentes qualités isothermiques. Partant sec, les roseaux se contractent, assurant ainsi la ventilation de la baraque, et partant de pluie, ils gonflent, lui offrant ainsi une parfaite étanchéité. Voyons voir un peu l'aménagement intérieur. L'intérieur de la baraque est généralement divisé en 3 pièces. La pièce centrale sert de cuisine et pour le stockage alimentaire. À l'origine, un petit foyer était aménagé à même le sol au milieu de la pièce, comme dans les tipis. Et la fumée s'échappait par le ventail supérieur de la porte. Par la suite, on le voit dans cet écorché, des cheminées ont été aménagées. En règle générale, la pièce sud-est sert de chambre aux parents et la pièce nord-ouest est réservée aux enfants et au rangement de matériel. La baraque s'inscrit en étroite relation avec son environnement. Côté nord-ouest, une haute palissade de Cagnes, qu'on appelle le répar, est construite perpendiculairement à la baraque pour protéger de la tramontane. Parfois, un toit en auvent, qui s'appelle l'ombraire, la complète, abritant du soleil. À proximité de la baraque est l'estranadou, c'est-à-dire un alignement de perches fixées horizontalement sur des piquets et sur lesquels les filets étaient mis à sécher après teinture. L'agouille, enfin, est le petit port artificiel permettant de laisser les bêtes, c'est-à-dire les barques à fond plat, à flot, amarrées à l'estacade de l'abri. Habitat temporaire et précaire, les baraques du Roussillon sont particulièrement menacées. En 1957, on en dénombrait encore plus de 130 entre Leucate et Argelès. Suite à l'aménagement du littoral, engagé depuis les années 60, qui entraîna la destruction de plusieurs villages de cabanes et au développement également de la grande pêche, il n'en subsiste plus aujourd'hui que quelques exemples autour de l'étang de Sals et au Barcarès. Comme à Bauduc, le problème récurrent des baraques vient toujours du statut foncier, car pour la plupart, elles sont installées sur le DPM, domaine public maritime, et font l'objet de concessions temporaires depuis une ordonnance royale de Colbert datant de 1191. Reprenons la chronologie de ces 40 dernières années. En 1960, un arrêté préfectoral interdit, je cite, « ces baraquements faits généralement de roseaux, considérant que la prolifération de tels taudis compromet gravement l'esthétique des plages ». En 1961, des villages de cabanes sont détruits à Saint-Cyprien et à Port-Barcarès. En 1976, le Bourdigou, sur la commune de Sainte-Marie-la-Mer, village de plusieurs centaines de baraques en sénil et de cabanes en planches, incarne la résistance des cabaniers. Un arrêté d'insalubrité est pris, suivi d'expulsion et de condamnation des familles par le tribunal pour occupation sans titre des terrains. Un comité de défense se crée et une paillote symbolique est construite. La dernière baraque, celle de Galdric, le maire du Bourdigou, sera détruite au bulldozer après sa mort en 1983. Alors, pour illustrer ce propos, je vais vous passer 3 photos moi, que je trouvais exceptionnelles de Michel Descossy, que Michel Descossy a prises sur le vif pendant la destruction du Bourdigou au début des années 80. 78, malgré tout, première tentative de protéger quelques cabanes. La Commission supérieure des monuments historiques examine les dossiers, mais cela n'aboutit pas. En 94, sur la base de l'étude de Robert Bataille, l'habitat en roseau traditionnel, les baraques de sénil des pêcheurs roussillonnais, et à l'initiative de notre regretté collègue André Signol, de la conservation des monuments historiques, puis du service ethnologie de la DRAC, 2 baraques sont proposées à la protection. La baraque de la famille André Canal, sur la commune du Barcarès, au lieu dit La Coudalère, et la baraque de la famille Cabrol, sur la commune de Sals. L'arrêté d'inscription repose sur l'intérêt archéologique et ethnologique de cet habitat, lié à la pratique de la pêche en étang, et sur sa fragile représentativité, réduite aujourd'hui à quelques rares exceptions, et pour cause. En l'espace de 30 ans, L'image de la baraque des pêcheurs du Roussillon, donc, a changé de manière radicale. Détruite au nom des impératifs touristico-économiques et d'une sorte d'hygiénisme social et urbanistique dans les années 70, elle a été réhabilitée symboliquement par le classement monument historique, c'est-à-dire le plus haut degré de légitimation patrimoniale, même s'il peut paraître paradoxal de protéger de l'architecture éphémère. Cette réhabilitation symbolique est également perceptible dans le modèle architectural qu'elle offre désormais, puisque les maires du littoral des PO, les Pyrénées orientales, qui détruisirent à coups de bulldozer, ont reconstruit des villages de pêcheurs à usage estivant nord-européen, qui sont des pastiches dérisoires, des baraques séniles authentiques.
Sur Divergence FM 93.9, vous êtes à l'écoute du Bistrot des ethnologues. Christian Jacquelin, ethnologue à la DRAC Languedoc-Roussillon et membre du Laïc, sur le thème « Le monde incertain des cabaniers », un bistrot enregistré ce mardi 7 octobre 2008 au Baloir.
Voilà, au terme de cette intervention donc, portant sur les cabanes dites traditionnelles et sur un monde qui tend à disparaître, je voudrais juste livrer quelques réflexions et interrogations en guise de conclusion. Destruction, transformation, patrimonialisation. C'est comme si les trois calimites que nous avons évoquées en Camargue, Languedoc et Roussillon traçaient les destins inéluctables de ce monde des cabanes et des cabaniers, désormais rattrapés par la société. Bon, qui sont les néo-cabaniers ? Moi, j'ai travaillé surtout sur les cabanes dites traditionnelles. Il y a des néo-cabaniers. Y a-t-il des nouveaux usages, de nouvelles pratiques, de nouvelles représentations de la cabane ? Peut-on encore parler d'esprit cabanier en ce début du XXIe siècle ? Bon, le champ qui s'ouvre est vaste. La cabane, qu'elle soit précaire, de l'enfance, fonctionnelle ou résidentielle, n'a pas fini de nous interroger et puis peut-être de nous faire rêver. Voilà, je vous remercie.
Eh bien, bonsoir. Donc, après ce brillant exposé sur la cabane, je crois que c'est assez bienvenu de voir, enfin de découvrir ou de revoir pour certains un cabanier tel qu'on l'a filmé pendant une année et demie à peu près avec Christian. C'est un personnage qu'en fait j'avais rencontré déjà dans un premier film il y a 20 ans. Et en fait, bon, on a revécu donc des petites séquences de vie ensemble dans cette année et demie de tournage. Et au départ, je pensais que j'allais mettre des images d'archives que j'avais déjà en magasin. Et en réalité, ce n'était pas la peine. Il continuait à être ce qu'il était. Bon, et maintenant, il est malheureusement décédé il y a quelques années, deux ans, je crois.
Oui. Et en 2006, oui, c'est ça.
Voilà.
En juin 2006.
Et donc, il nous reste ce témoignage quand même qu'on aime bien. Donc voilà, peut-être qu'après on en parlera.
Je précise juste que l'ouvrage qu'on a sorti chez Equinox est à la mémoire de Joseph et en hommage à Gaston Bézette.
Donc je vous rappelle la règle du jeu, après donc l'intervention de Christian et le film de Luc, c'est le moment de poser les questions. Alors peut-être aussi nous aurons l'occasion de lire celles qui me sont envoyées par les internautes. Ils ont sûrement repris l'écoute de l'émission en ce moment. Voilà. Est-ce que des questions qui sont posées ? Enfin, j'en ai une quand même après ce film que j'avais vu déjà et que j'avais un peu oublié d'ailleurs. Est-ce qu'une femme pourrait vivre avec Joseph ? Est-ce que j'avais oublié comment c'était ? Je comprends pourquoi d'ailleurs. Christian.
Joseph, c'était un vieux garçon, vous l'avez vu. Une solitude parfois pesante, il en parlait. Mais c'est vrai qu'aussi que les cabanes, c'est quand même des milieux d'hommes. Hein. Vous avez vu sa sociabilité avec les chasseurs, ça rythmait sa vie au quotidien, hein. Offrir le café aux chasseurs, aller bricoler une partègue, aller voir son feuilleton sur sa télé à mazout, comme il disait, puisque c'était un moteur diesel qui lançait la télé, il appelait ça la télé à mazout. C'était ça. Ensuite, il s'était installé une installation solaire extraordinaire, mais enfin, je crois qu'il n'en a pas beaucoup profité, malheureusement. Bon, ta question, c'est vrai que pas de femme à la cabane, je crois.
Il y a un registre de légitimation dans la destruction des cabanes que tu n'as pas évoqué, c'est celui de la protection de l'environnement. Et justement, je trouve que ce film, qui moi me touche beaucoup, alors j'aimerais aussi intervenir sur la question de la femme à la cabane, parce que j'ai vécu 15 ans dans une cabane de la sorte, donc... Mais c'est surtout sur la question du registre de légitimation que j'aimerais intervenir là, parce que justement moi ce film moi m'interpelle beaucoup sur le rapport à la nature justement qui est montré de toute beauté là dans ce film, à la fois dans la question du son, du rapport que je vois ces hommes qui arrivent qui font cette observation sur les eaux commentées, sur le registre des saisons, enfin sur ce côté Et pour faire un petit détour par Bauduc, puisque c'est là que j'ai résidé pendant 15 ans, le sobriquet auquel tu faisais référence de gratte-plage traduit très exactement le rapport à la nature dont il est question, à savoir un rapport à la nature. Alors, tu disais qu'il était dérivé de la pêche à la théline, il est dérivé de toute pêche qui consiste en fait à gratter le fond vaseux et sablonneux de ce littoral camarguais et probablement languedocien aussi. Et par extension aussi, l'aptitude à récupérer, donc gratte-plage, c'est aussi, ça c'est à l'adresse de celui qui a cette aptitude particulière à récupérer non seulement les ressources de la nature, mais aussi tout ce qui est nécessaire à l'édification de l'habitat, à l'échange, parce que ça c'est quelque chose de très important aussi dans le monde des cabanes. Et donc ce registre de légitimation qu'a utilisé en particulier le préfet des Bouches-du-Rhône, Christian Frémont, lorsqu'il est venu détruire les 17 cabanes en 2004 et les deux restaurants très symboliques de Bauduc, a largement puisé dans ce registre de légitimation. Et on peut se poser la question effectivement de l'invocation de la protection de l'environnement dans un milieu où justement les gens se sentent particulièrement proches de la nature.
J'ose ajouter que dans l'Hérault, le même leitmotiv du développement durable justifie aussi les mêmes types de procédures actuellement. Par exemple, du côté de Vias, en tout cas dans les réflexions qui sont menées.
Vraiment, mais c'est dans le droit fil de ce que vient de dire Laurence. On est dans la mélancolie pure. Je veux dire, les images qu'on voit, ce monde qui est en voie de disparition, avec des bonnes et des mauvaises raisons. Et parmi les mauvaises raisons, il faut quand même reconnaître, je ne sais pas, enfin, c'est peut-être pour lancer le débat, mais qu'il y a des gens qui, loin d'être dans cette vie telle que qu'on la voit décrite autour du personnage de Joseph, profitent d'un certain laxisme administratif autour des étangs pour créer des résidences secondaires. C'est tout l'apologie du béton, enfin pas l'apologie, mais l'épisode du béton qui se produit. Et à un moment donné, j'avoue que je sais pas comment. Enfin, moi j'ai milité depuis les années 80 autour du Bourdigou. Pour moi, c'est un combat perdu, quoi. J'ai l'impression d'être du côté des Indiens. Bravo les Indiens, vous avez gagné. Nous avons perdu. Mais à part ça, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je veux dire, actuellement, le fait de créer autour de ces endroits magnifiques des résidences secondaires en béton est le moyen le plus sûr, beaucoup plus que la légitimation ethnologique ou écologique, de supprimer ces lieux. Donc moi, je dis ça, enfin, une observation, quoi.
J'avais essayé d'évoquer ça sur les trois grandes tendances. Suppression, transformation en villa, ça me suffit souvent, bétonisation, la kéronite, comme quelqu'un a exprimé ça, la kéronite, c'est pas mal l'utilisation du kéron, et puis la patrimonialisation. Alors c'est vrai que ça peut apparaître comme une ethnologie des derniers un peu, hein, selon l'expression de Daniel Fabre, hein, et puis tu as soulevé l'ethnostalgie, hein, on l'avait appelé comme ça un temps, on avait créé un néologisme là-dessus aussi, mais en même temps c'est quand même bien aussi à l'ethnologue de montrer que ces maisons, ces cabanes, constituent un patrimoine régional aussi, c'est important. Et alors, deuxième observation, c'est les attitudes totalement contradictoires des communes, des municipalités, qui parfois sont sur la fermeté, je citerai personne, mais soit parfois sur le laxisme absolu, et qui laissent faire, et qui semblent autoriser les gens à construire, à transformer. Alors que Laurence dit, c'est cette précarité qui fait qu'il y a un certain esprit des cabanes qui peut durer. C'est très compliqué. Alors, est-ce qu'il y a des outils pour gérer ça? On évoque les ZPPAUP, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui sont complexes à monter, vous le savez bien, qui passent par la concertation avec les gens, avec des cahiers des charges, avec des cahiers des prescriptions architecturales, des choses comme ça. Mais en même temps, la tradition languedocienne, c'est bien de transgresser. Moi, c'est ce que je connais un peu, transgresser malgré tout la loi. On la détourne un petit peu. C'est toujours ça, quoi. On est dans un jeu en permanence complexe. Ceci étant, il y a des exemples réussis, à mon avis, de gestion. Je pense les cabanes du Roc, près de la Grande Motte, où le CAUE de l'Hérault veille sur ces cabanes comme le lait sur le feu, et qui sont encore pas mal, quoi. Enfin, voilà, c'est...
La voie royale vers la protection des cabanes, je ne pense pas du tout que... ce soit à cet endroit-là. Moi, je pense plutôt à la question du risque, en fait. C'est bien la dimension risque qui a donné la dimension cabane, je dirais. Et pour preuve, lorsque, pour Bauduc, il s'est agi d'annoncer politiquement Bauduc est sauvé en 1997, ça a donné lieu à justement quelque chose qui a pris un tour effréné et justement quelque chose qui était. Alors là, certainement à référer à la question du laxisme, c'est-à-dire que lorsque la dimension risque disparaît du monde des cabanes, c'est-à-dire quand les ZPPAUP et autres s'emparent de ces questions et essayent de patrimonialiser, je dirais qu'on arrive à la falsification totale de ce qu'est le monde des cabanes, et on arrive à quelque chose qui est tout à fait inversé quant au résultat escompté, quoi. Et bon, alors là, l'annonce politique Bauduc est sauvé à l'époque de la résistance de Bauduc a donné lieu à quelque chose qui a certainement irrité profondément les administrations jusqu'à les faire finalement intervenir, c'est bien possible. Enfin là, je sais pas trop, je m'avancerai pas sur cette question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la précarité, c'est vraiment la définition de la cabane. Et lorsque la précarité est mise en danger, on arrive à vraiment à tout l'inverse de ce qu'est le monde des cabanes profondément, quoi. Donc moi, en tant qu'ethnologue, en tout cas, la question de la patrimonialisation me pose problème profondément. Et l'ethno-nostalgie, moi je regarderai pas. D'abord, c'est pas l'habitat qui m'intéresse. Je me fiche totalement qu'une cabane soit faite en sanil, en tôle goudronnée ou en tôle en vilaine tôle. Ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, c'est le mode de vie, c'est la relation sociale qui se noue, c'est l'adaptation à la nature éventuellement ou pas d'ailleurs. C'est absolument pas l'habitat en tant que tel dans lequel on se pâme ou qui bon non, pas du tout. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette question du mode de vie. Et là encore, j'en reviens à la question du rapport à la nature. Il est vrai quand même que aussi le mode de vie cabanier peut nous laisser penser dans notre société à quelque chose qui a un rapport avec des préoccupations, la question de l'économie de l'eau, la question de l'énergie, la question d'un ensemble de questions. Et moi, c'est là que le mode de cabane, je trouve, peut être un modèle, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, une source d'inspiration, une source de réflexion. L'habitat, personnellement, je m'en fous. Voilà.
On a parlé des cabanes, mais c'est, il faut bien le dire, la pollution des étangs qui ont supprimé la plupart des cabaniers. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus vivre de leur pêche d'étangs. Du côté de Palavas, j'ai connu, parce que le privilège de l'âge, j'ai connu tous ces cabaniers en 40, j'ai commencé en 46 à faire des photos des étangs. Et c'est plus du tout le même paysage, ni les mêmes. Vous parlez de cabanes, je vous assure qu'il y avait des cabanes magnifiques, enfin, c'était d'un pittoresque. Et tout ce monde des cabaniers, ils ne peuvent plus vivre, donc il n'y a plus de pêcheurs. Il y a des gens qui viennent, qui sont fonctionnaires, qui sont et qui habitent là, quoi. Non, mais c'est fini. Les chasseurs, pêcheurs, il y en a presque pas. Et d'où la disparition des vraies cabanes. Là, on construit d'abord le barbecue, qui est presque aussi grand que la cabane. Ensuite, la haie, pour qu'au moins le voisin ne passe pas, hein, sur le petit terrain. Il y a la guérite avec le chien méchant. Il y avait des chiens, mais chasseurs. Des chats, chasseurs d'anguilles. Mais des chiens loups, il n'y en avait pas. Je n'en ai pas connu. Voilà. La transformation, je dois le dire aussi, c'était un milieu d'anarchistes et de machos. Qui dit macho dit pas de femme dans les cabanes. Or, à partir des années 60, je peux dire, les femmes sont arrivées. Avec toute leur féminité, j'adore les femmes, surtout, je ne suis pas content. Mais elles sont arrivées, elles ont mis des petits rideaux, elles ont mis le frigo, elles ont mis le petit tapis. C'est fini. Il faut que la cabane soit bien peinte, alors qu'avant, on prenait des pots de pinceau, des fonds de pots de peinture, et c'était du tonnerre. Et ça tombait juste, toujours, parce que ce sont des gens qui, habitant dans la nature comme ça, avaient du goût. C'était des rudes du goût. Ils avaient aussi le goût de la bonne chair, c'est-à-dire des soupes d'anguilles, les machins. Quand on les connaissait, ils étaient très sauvages, il le dit Joseph d'ailleurs, à un moment donné. Mais quand on les connaissait, qu'on faisait partie de leur amitié, les soupes d'anguilles, les poissons sur la braise. La braise, il y avait quatre pierres et le fagot. Hein. Il n'y avait pas le barbecue avec merci maman. Voilà. Voilà le peu que je peux dire.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire marseillaise. Dans les cabanons, on se la montre, on se la mesure, des fois on se la met, mais de là à dire qu'on est pédé quand même.
Oui, moi je voulais tout d'abord revenir sur le thème cabanisation, parce que on parle de cabanisation, on a vu un reportage avec Joseph qui était exceptionnellement intéressant par rapport à une méthode, une façon de vivre, et je crois que le mot cabanisation aujourd'hui on l'applique un petit peu à tout. On a vu tout à l'heure Bauduc, j'étais il y a une quinzaine d'années encore un adhérent de l'association de Bauduc, pour pouvoir la défense de Bauduc, pour pouvoir essayer de les aider, et j'allais de temps en temps camper là-bas, donc je connais bien cette méthode de vie, je dirais, où on se sent très très bien parce qu'on a de l'espace, parce qu'on n'a pas trop d'obligations. Et puis la cabanisation aujourd'hui, c'est un terme un petit peu générique où il y a un petit peu tout, donc ça peut être du Bauduc, ça peut être Joseph qui lui était plutôt un peu pêcheur, on va dire, et qui était un ancien charpentier de marine, qui avait son activité. Et puis il y a des personnes, et là je vais surtout parler du cas de Vias, que je connais particulièrement bien, où là ce sont surtout des personnes peut-être retraitées qui ont eu envie de vivre au soleil, qui ont acheté un morceau de terre, qui ont eu des autorisations légales pour pouvoir s'implanter. Et puis sur Vias, il y avait un historique de ce que j'appellerais cabane, vraiment la cabane en bois, cabane en pierre, le petit maset de campagne qui a été transformé en habitation au fur et à mesure. Et puis se sont implantés donc des résidences mobiles de loisirs. Et là, c'est un petit peu, dans le terme cabanier, on met résidence mobile de loisirs. C'est assez bizarroïde parce que résidence mobile, c'est pour le loisir. Alors que cabanier, c'est une cabane, je veux dire, c'est avec des matériaux un peu succincts, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Donc ce terme de cabanier, il est un petit peu généraliste. Au début, nous, on était un petit peu contre, en se disant, mais on n'est pas des cabaniers, on est des résidentialisés. On vit dans des résidences mobiles de loisirs, et tout à l'heure, vous l'avez évoqué, dans les campings, vous avez parlé tout à l'heure de HLL, habitation légère de loisirs. Alors, il y a cabane, HLL, RML, résidence mobile de loisirs. Et tout ça, c'est un petit peu tout mélangé par rapport au terme cabanisation. Alors nous, on n'a rien contre, parce que je crois que dans tous ces dossiers, il y a un point commun, c'est le facteur de la liberté, de vivre dehors, de vivre bien, de vivre en accord avec la nature, parce que je crois qu'aujourd'hui, qu'on sorte d'un mobilhome ou qu'on sorte d'une cabane ou d'un HLL, on a envie d'être dehors, d'avoir des arbres autour de soi, d'avoir peut-être la mer pas loin, des étangs pour certains, comme à Varcillargues et autres. Et je crois qu'aujourd'hui, le terme cabanier, c'est plutôt pour moi une méthode de vie, une façon de vivre, avec la nature, de la respecter aussi. Alors, vous connaissez certainement, pour certains, le combat que nous menons aujourd'hui. Il n'est pas facile parce qu'on se heurte au service de l'État. On a 330 hectares, quand même, une grosse réserve foncière située entre deux réserves naturelles. La réserve des Verdises d'un côté, qui est classée Natura 2000, et puis de l'autre côté, donc la réserve de Port-Tirane, qui est aussi classée Natura 2000. Et puis entre, il y a 330 hectares qui ont eu la bienveillance de pouvoir être urbanisés depuis les années 90, avec l'eau, l'électricité, fosse septique, en fait tout à fait réglementaire, je dirais, au niveau hygiène, insécurité, insalubrité, il n'y en a pas chez nous. Et puis, on pense qu'il y a certainement des projets économiques importants qui arrivent. Et puis, on ne nous l'évoque pas, évidemment. On trouve des moyens, des prétextes pour vous dire, vous n'êtes plus les bienvenus ici, et puis il faut partir. Voilà. Donc, je pense aujourd'hui aux cabaniers de Marcillargues, puisque j'ai eu le président au téléphone la semaine dernière. Je pense à d'autres personnes de l'île de Ré, l'île de Léron, que j'ai eu aussi au téléphone plusieurs fois, qui mènent un peu le même combat. À partir du moment où on est peut-être un petit peu trop proche du littoral, trop proche de la nature, dans un endroit vraiment faramineux, comme à Boudu, que j'ai connu il y a une quinzaine d'années, où on sentait bien, effectivement, il y a cette espèce de convoitise directement, et puis ça mène des attaques juridiques importantes, incessantes, et nous, on a une chance à Via, c'est qu'on est 3500, mais quand on est 20, 30, 40... lutter contre les services d'État, c'est quand même pas facile. Alors, on a beau être aux normes, au niveau hygiène, parce que les termes qui sont évoqués souvent, ce sont des problèmes d'insécurité ou d'insalubrité. L'insalubrité, c'est pas avoir d'eau potable, c'est pas avoir de fosse septique. L'insécurité, c'est les chemins qui sont peut-être pas réglementaires, on peut pas accéder. Et puis, ce fameux plan de prévention des risques d'inondation, à girouette variable, qui... pendant quelques années, vous classifiez en zone rouge en disant « mais il faut vite partir ». Et puis quelques années après, par enchantement, eh bien, ça devient constructible. C'est ce qui s'est passé à l'île de Ré, par exemple, à l'île de Léron, où des gens ont perdu leur combat parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, pas assez organisés, sont partis, ont laissé cet art de vivre, et puis 10 ans après, on a mis du béton à la place. Alors, effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé des matériaux qui composaient les cabanes. Ça peut être de tout, fait du bois, du béton, etc. Mais là, on est vraiment face à, des holdings touristiques qui veulent s'approprier un petit coin de terre où on se sent bien. Voilà, donc je vous parle un petit peu de Vias, puisqu'on est là ce soir, et vous avez parlé tout à l'heure dans votre dialogue. Thème cabanisation, moi, je crois que, tout simplement, pour conclure, c'est un esprit. C'est un esprit où on se sent bien, où il y a de la convivialité, que ça soit uniquement des hommes dans certaines cabanes ou avec la mixité par la suite. Je sais qu'à Vias, aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges pour les gens qui vivent à l'année, beaucoup d'entraide, beaucoup de convivialité, et puis surtout une espèce de bien-être de vie quand on se lève le matin et puis qu'on a la nature autour de soi. Voilà.
Alors, Christian, est-ce que que penses-tu de ces mouvements tout à fait inédits sur ces phénomènes un peu cabaniers, un peu particuliers? Est-ce que tu penses qu'ils ont des chances d'aboutir?
C'est-à-dire?
Je pense à ce que M. vient de nous expliquer sur Vias, du côté de l'État.
Alors, j'informe, j'avais invité le sous-préfet de la mission littorale. Jean-Baptiste Milcan. Moi, je vous cache pas que je fais partie aussi des commissions et j'essaye de faire passer le message, en tout cas, de mon point de vue d'ethnologue, naturellement. il y a une réglementation. On critique les immobiles homes, c'est la formule aussi, hein, qui ne bougent plus. Ben voilà, la pétrification des choses aussi, c'est ça. C'est, bon, je sais bien. Moi, j'essaye de défendre, par un point de vue d'ethnologue, l'intérêt, en tout cas, de ces formes de vie, en tout cas. Mais c'est qu'un point de vue de la culture par rapport à une réglementation qui relève de l'environnement, de différentes structures, de la DDE, etc. Hein. Voilà. Je le disais tout à l'heure, hein, moi je le défendais sur le plan patrimonial, parce que finalement, moi je suis à la direction du patrimoine et j'ai pas tellement d'autres solutions, d'autres alternatives que de présenter cet intérêt-là. Hein. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Laurence, Nicolas n'est pas d'accord avec moi. Il me semblait pourtant qu'au niveau de l'association de Bauduc, tu avais malgré tout un petit peu poussé l'association patrimoniale. Bon, c'est... Non, pas du tout. Bon, bon, ben d'accord. Bon, je... Non, mais donc voilà, moi je défends, je vous dis des cabanes comme témoignage d'un mode de vie. C'est surtout ça. Quoi. C'est ma passé présent, parce qu'en même temps je dis que les alors mes prochains terrains, ça sera surtout en Cévennes, les néo-cévenols qui habitent dans des cabanes, parce qu'il y a des formes de construction intéressantes. J'en ai montré quelques-unes. Je commence à enquêter là-bas, puisque aussi, il se trouve que j'ai une cabane aussi en Cévennes. Mais voilà. Mais et là, on n'est vraiment pas dans une tradition cabanière. On est dans un mode de vie alternatif, ou alors la tradition remonte aux années 70, quoi. Voilà. Mais ça m'intéresse. Naturellement, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, du point de vue des municipalités, c'était très intéressant, ça. Mais ça, c'est mon nouvel objet, alors je ne peux pas trop en parler là maintenant.
Bon. Donc, s'il n'y a plus aucune question, je vais remercier Christian et Michel aussi, et tous les amis qui sont ici, ainsi que Luc et Laurence, bien sûr, de nous avoir ainsi amené leur réflexion. Et donc, je vous signale aussi que les ouvrages de Christian sont disponibles à l'accueil. Vous pouvez, si vous souhaitez, en acquérir quelques-uns. Celui de Laurence aussi, me semble-t-il, est accessible. Il doit être par là-bas. Donc, vous pouvez en acheter un si vous voulez. Et je vous rappelle aussi que là, ce que dit sans moi, j'ai pas pris mes notes, Patricia. Nous allons revoir Kaboul le 4 novembre avec l'intervention de monsieur et madame Saint-Livre. Donc ils sont déjà venus il y a longtemps nous parler de l'Afghanistan et qui donc vont revenir.
Je me signale que l'émission sera rediffusée jeudi à quelle heure? Vous savez pas encore. Sur Divergence FM 93.9, 19h. Voilà.
Voilà, merci beaucoup, donc à la prochaine.
Divergence FM vous a proposé d'écouter l'enregistrement du Bistrot des Ethnologues qui s'est tenu ce mardi 7 octobre 2008 à 20h30. C'était au Baloir et l'atelier de rencontre comparative en ethnologie recevait Christian Jacquelin, ethnologue, sur le thème « Le monde incertain des cabaniers ». Le prochain rendez-vous avec le Bistrot des Ethnologues, ce sera le mardi 4 novembre. L'atelier de recherche comparative en ethnologie recevra Pierre Sanslivre et Micheline Sanslivre. Pierre Sanslivre est ancien directeur de l'Institut d'ethnologie à Neuchâtel, professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel. Madame Sanslivre-Demont, rédactrice de Afghanistan Info depuis 1980. Le titre de cette conférence, Revoir Kaboul. Le Bistrot des Ethnologues est une collaboration de l'ARCE et de Divergence FM, l'atelier de rencontres et de recherche comparative en ethnologie dont vous pouvez retrouver toute l'actualité sur ethnobistrot.fr.